Bonsoir, comment allez-vous? J'aimerais vous raconter cette petite histoire qui se passe dans une écurie de chevaux de course en Irlande. Les chevaux de course coûtent très cher et peuvent rapporter beaucoup d'argent, on s'en occupe donc très bien. Et un cheval préoccupait son éleveur et son propriétaire parce qu'il était agité, et bing et bang, et il tapait dans son box, et il se retournait, il se tortillait, et bing et bang, et il tapait, il faisait du bruit, il empêchait tout le monde de dormir la nuit. Puis on s'est fait du souci, on a appelé l'homéopathe, l'ostéopathe, le psy, on l'a massé au miel, on l'a massé à la bière, rien n'y faisait. Il continuait à tourner et à taper, et bing et bang, et envoyer son seau. Et puis il y avait là une jeune fille, une jeune française qui s'appelait Ève, qui s'appelle toujours Ève d'ailleurs, et un jour elle a remarqué que ce cheval avait mis son postérieur dans son seau, son pied arrière, et puis qu'il se tortillait pour essayer de mettre le deuxième. Il voulait mettre son deuxième pied dans son seau. Alors elle s'est approchée, puis elle lui a pris son deuxième pied, puis elle l'a posé dans le seau. Et là, il était bien, il était content, les oreilles droites, et il n'a plus bougé. C'était son kiff à lui de mettre ses deux pieds arrière dans son seau. C'est tout. C'était pas la peine de le droguer, d'appeler les plus grands spécialistes. Les deux pieds dans le seau, voilà. Suffisait de le regarder, peut-être de le comprendre.
France Inter. État d'esprit. Noël Bréham.
Moi, je les admire, ces bêtes. Je les admire, elles ont la force, la beauté, le charme. Quelque chose de plus que toutes les autres. Quelque chose de plus que nous, peut-être. Et quand je pense qu'il y a des brutes qui massacrent ces montagnes de muscles et d'intelligence pour fabriquer des boules de bière, ça me fout en rancune.
Frédéric Lenoir, bonsoir et merci.
Bonsoir Noël.
Éric Baratet, bonsoir et merci d'être là.
Bonsoir.
Alors Éric Baratet, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Lyon. Je vais juste citer vos précédents livres. La corrida, l'église et l'animal, l'animal domestique, zoo, et l'homme créé à l'animal. L'animal en politique, portrait d'animaux, la société des animaux, bête de somme, le point de vue de l'animal, Milou et des fixes et compagnie, bête de tranchée, chien, chat, pourquoi tant d'amour, des bêtes et des dieux, les animaux dans la Grande Guerre, et puis le dernier, biographie animale éditée au Seuil. Vétérinaire, ça ne vous a pas traversé l'esprit, non, quitte à faire des études longues?
Non, effectivement, non, c'était historien dès le départ.
Ah ouais?
Et un 15 août, dans mon hamac, vous voyez, un jour prédestiné, je cherchais un sujet de thèse et il m'est venu à l'idée de travailler sur les animaux. Or, à l'époque, il ne se faisait à peu près rien. On était au milieu des années 80. Et donc, je suis parti comme ça. Ça fait maintenant plus de 30 ans, ce qui ne me rajeunit pas.
Donc, votre thèse sur les animaux et vous y avez
pris
goût.
C'était la thèse sur l'église et l'animal. Et puis après, j'ai pris goût parce que finalement, le monde animal est un véritable continent. Les sujets sont multiples et les moyens de travailler le sujet sont aussi multiples.
Mais sans vouloir être indiscrète, vous aviez déjà un élevage de souris dans votre cuisine, un chien, deux chats
Un simple chien uniquement. Mes parents avaient des chiens, oui, effectivement. J'ai toujours eu de l'affection pour les animaux. Et ça a été un moyen de rejoindre finalement, de souder deux passions, l'histoire et les animaux.
Ouais. C'est vrai que c'est assez... Vous êtes le seul ? C'est assez original.
J'étais le seul. Maintenant, il y a quand même beaucoup de monde qui vient sur le sujet et c'est tant mieux.
Parce et c'est que, tant mieux.
Bien sûr.
Et c'est tant mieux.
Ça veut dire que la cause devient un véritable sujet social.
Peut-être sommes-nous en train de nous réveiller, comme vous le dites, Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir, vous êtes philosophe, sociologue, cofondateur de Sève, Savoir être et vivre ensemble, président de l'association Ensemble pour les animaux. Vous êtes un peu Frédéric Lenoir, le sage qui s'agite, et ça nous plaît, parce que comme ça on se reconnaît, j'aime beaucoup Mathieu Ricard, mais je n'irai jamais vivre là-haut, dans un monastère, dans l'Himalaya. Donc on se reconnaît un peu chez vous, et votre dernier livre, Frédéric Lenoir, est peut-être encore plus accessible que les autres, Lettre ouverte aux animaux et à ceux qui les aiment, et c'est édité chez Fayard. Et vous réussissez cette belle chose qui est de nous responsabiliser sans nous culpabiliser. Ça, j'adore, parce qu'on n'achète pas un livre pour se faire engueuler. Hein. Ce n'est pas particulièrement agréable. Et au début de votre livre, Frédéric Lenoir, vous citez l'historien Jules Michelet. « Celui qui croyait étudier des choses découvre des âmes ».
Effectivement, moi c'est un peu comme Éric Baratet, je m'intéresse depuis très longtemps aux animaux, j'ai une affection aussi forte pour les animaux, et en même temps je trouve que c'est un sujet majeur de la philosophie qui a été assez peu traité, même s'il y a des historiens récents comme Elisabeth de Fontenay qui ont fait des travaux très intéressants d'histoire de la philosophie sur le sujet, mais j'avais envie de mener une petite réflexion assez vive, un peu comme un petit manifeste, un petit ouvrage tonique, vivant, pour essayer de repenser un petit peu notre relation aux animaux, en évitant d'un côté, je dirais effectivement, l'écueil auquel on est beaucoup plus habitué de considérer que l'être humain est totalement supérieur aux animaux, qu'il y a une différence radicale, ce qu'on retrouve dans toute, chez la plupart des penseurs grecs, chez les grands théologiens chrétiens, mais également chez des penseurs de la modernité, notamment des savants, que ça arrange bien aussi pour pouvoir utiliser les animaux comme du matériel. Mais un autre écueil qu'on trouve aujourd'hui également, qui est l'autre extrême, qui consiste à dire il n'y a aucune différence entre nous et l'animal, il faut libérer les animaux, on ne peut plus posséder d'un animal, on ne doit plus du tout manger d'animaux, qui est un courant très fort actuellement, qui se développe autour de la théorie de l'antispécisme, et je ne me reconnais dans aucun de ces deux courants. Et donc j'avais envie de finalement d'essayer de refonder un lien avec les animaux qui passe par une autre approche qui consiste à dire, il existe des différences fondamentales entre toutes les espèces, ne mettons pas l'homme au-dessus des autres en disant il y a un propre de l'homme qui finalement le rend totalement différent de toutes les autres espèces et donc supérieur, essayons de comprendre quelles sont les singularités de chaque espèce. Le dauphin des qualités qu'aucun autre animal a, l'éléphant aussi, et chaque animal a finalement une différence spécifique, quelque chose qu'il caractérise en propre. Et du coup, dans ce cadre-là, je m'interroge, qu'est-ce qui est, entre guillemets, la singularité humaine ? Et j'en arrive à une conclusion qui est notamment que c'est là une raison effectivement très développée qui lui permet d'avoir une conscience morale, notamment universelle, et je dis, utilisons cette conscience morale pour protéger les animaux, ceux qui sont faibles, ceux qui sont à notre portée, plutôt que de les exploiter, de les dominer, comme on l'a beaucoup trop longtemps fait.
Tout ça avec mesure, tout ce qui est excessif et stupide, et c'est justement agréable. C'est vrai que en ce moment, il y a à propos des animaux, des passions, c'est bien la passion, parce qu'il y a de l'énergie et il y a de l'enthousiasme, mais parfois... on arrive à l'agressivité.
Et dans les deux cas, voilà, on se fait vite. Il y a beaucoup de pensées sectaires et dogmatiques dans les deux cas. Moi, j'essaye de m'appuyer déjà sur les travaux des éthologues, que nous disent les spécialistes du comportement animal. Et là-dessus, notre vision des animaux a complètement changé en 30 ans. Et on pensait que les animaux ne pouvaient pas rire, on s'aperçoit que c'est pas vrai. Qu'ils fabriquent pas d'outils, on s'aperçoit que c'est pas vrai. Qu'ils aient pas de conscience d'eux-mêmes, on s'aperçoit que c'est pas vrai. Donc, il y a plein d'animaux qui ont des qualités qui étaient le propre de l'homme avant.
Et qui ne sont plus le propre de l'homme.
Non, tout à fait. Et du coup, c'est intéressant de recreuser la question du, entre guillemets, de la singularité humaine, compte tenu de toutes ces découvertes scientifiques. Et puis, c'est toute la question de la morale qui s'ouvre, c'est-à-dire comment faire rentrer les animaux dans la sphère morale et notamment dans le droit. Et ça, c'est une magnifique question, très d'actualité, et j'ai voulu un peu en faire le tour.
Nous allons développer ça pendant une heure, et puisque vous parlez de sujet, l'animal est un sujet, les espèces sont différentes, ce qu'on découvre dans votre livre, Éric Baratet, Biographie animale, édité au Seuil, c'est qu'on a l'impression que tous les individus d'une même espèce sont des espèces de jumeaux monozygotes, alors que pas du tout. Chaque individu, nous allons parler de ça, a sa propre personnalité, donc des réactions différentes. Vous avez choisi de nous raconter, Biographie animale, le titre est clair, Éric Baratet, vous avez décidé de nous raconter des histoires de personnalité. Personnalité chien, personnalité chimpanzé, personnalité girafe, mais personnalité.
Flèche en opale. Dans mon ovale, tout métal au visage pâle, drôle de fleur, un indien dans mon cœur. Flèche en platine dans ma poitrine, pointe sanguine, épaule féline, drôle de fleur, un indien dans mon corps. C'est lui. Du genre pas de touche, du genre qu'une seule cartouche. suis allée. Et si la flèche était empoisonnée, j'adonnerais sans hésiter mon cœur nu pour qu'il l'emmène loin, 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 territoire d'Andien. Et si la flèche était empoisonnée, j'adonnerais sans hésiter mon cœur nu pour qu'il l'emmène loin, loin, loin. Et si l'amour de ma vie, je sais que c'est lié, tout me le dit.
Juliette Armanet, chanteuse et pianiste, son premier album est sorti au mois d'avril. C'était l'Indien.
France Inter, Noël Bréham, État d'esprit.
Tout s'apaisait dans l'air, sur l'onde et plein d'oubli. Le crapaud sans effroi, sans honte, sans colère, doux, regardait la grande auréole solaire. Peut-être le maudit se sentait-il béni. Un homme qui passait vit la hideuse bête et frémissant lui mit son talon sur la tête. C'était un prêtre ayant un livre qu'il lisait. Puis une femme avec une fleur au corset vint et lui creva l'œil du bout de son ombrelle. Et le prêtre était vieux et la femme était belle. Vinrent quatre écoliers, sereins comme le ciel. Les enfants l'aperçurent et crièrent « Tuons ce vilain animal, et puisqu'il est si laid, faisons-lui bien du mal. » Et chacun d'eux riant, l'enfant rit quand il tue, se mit à le piquer d'une branche pointue, et le sang, sang affreux de toutes parts coulait sur ce pauvre être ayant pour crime d'être laid. Il fuyait, il avait une patte arrachée. Un enfant le frappait d'une pelle ébréchée. Il respirait toujours, sans abri, sans asile. Il rampait, on eût dit que la mort, difficile, le trouvait si hideux qu'elle le refusait. Les enfants le voulaient saisir dans un lacet, mais il leur échappa, glissant le long des haies. L'ornière était béante, il y traîna ses plaies et s'y plongea, sanglant, brisé, le crâne ouvert, sentant quelque fraîcheur dans ce cloaque vert.
Voilà, c'était un extrait de La Légende des siècles de Victor Hugo, lu par Hélène Bizio. Ce crapaud de Victor Hugo, vous le citez dans votre livre Frédéric Lenoir, Lettre ouverte aux animaux faillards. Comment est-ce que ça a commencé, la cruauté des hommes vers les animaux ?
Et je crois que ça remonte à bien loin, même si j'étais pas témoin pour le voir. Mais en tout cas, on peut considérer que l'être humain a commencé à se séparer des animaux. Déjà, il y a un événement qui est important, c'est lorsque Sapiens l'emporte sur tous les autres hommes préhistoriques. Vous savez qu'il y avait plusieurs types d'hommes préhistoriques au sein de l'espèce. Et c'est Sapiens qui l'emporte et qui finalement va devenir le grand victorieux sur toute la Terre.
Sapiens, c'est nous.
Et Sapiens, c'est nous. On est les descendants de Sapiens. Les autres ont disparu. D'autres grands singes ont réussi à subsister. Mais les autres humains ont disparu. Et Sapiens avait une caractéristique propre, c'est l'imaginaire religieux. C'est-à-dire qu'il était capable d'imaginer, il a une pensée symbolique, des choses invisibles. Et il a construit des édifices, il a fait des représentations artistiques, etc. Tout à fait unique, qui montrait qu'il s'intéressait à ce qu'on ne voit pas, à l'invisible. Et c'est ça qui a été peut-être une de ses singularités. Et à partir de là, la religion a pris une place très importante dans toutes les cultures humaines à partir de la sédentarisation. Et on a vu que dans toutes les traditions religieuses, l'être humain a édifié une barrière totale entre l'homme et les autres animaux, l'être humain ne se considérant d'ailleurs pas comme un animal, comme à part. Pourquoi ? Parce qu'il est le seul à pouvoir dialoguer avec les dieux. Et finalement, sa légitimité, sa supériorité, il l'attire de cette union particulière au divin qu'on retrouve très bien dit dans la Bible, par exemple, lorsqu'il est dit que Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance, à l'inverse des autres animaux qui ne sont pas créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et on va retrouver cette idée d'une rupture radicale entre l'homme et les autres animaux à cause de cette possibilité d'un imaginaire religieux, on va le retrouver dans toutes les traditions religieuses, y compris, je le précise, les religions orientales. On nous dit que le bouddhisme, par exemple, met tous les êtres... Oui. vivant sur le même plan, ce n'est pas vrai. Le bouddhisme nous dit, depuis les premiers sutras du Bouddha jusqu'à aujourd'hui, que si on veut atteindre l'éveil, on ne peut le faire que si on est un être humain. Donc, bien sûr, il faut respecter les autres animaux. Le bouddhisme enseigne la compassion, enseigne la bienveillance envers tout être vivant, mais en même temps, il établit une supériorité radicale entre l'être humain et les autres animaux, puisque pour atteindre l'éveil, la libération, le nirvana, il faut être dans un corps humain avec un esprit humain qui a une capacité supérieure aux autres animaux, qui lui permet d'atteindre la libération.
Donc Frédéric Lenoir, on peut, quand on passe d'une vie à l'autre, se mettre à voir le corps d'un animal pour une vie ou même plusieurs.
Pour les hindous, les bouddhistes, oui.
Voilà. Mais l'étape finale,
c'est l'être humain, qui est donc supérieur dans la hiérarchie d'un point de vue spirituel. Ce qui fait qu'effectivement, toutes les religions nous disent, à part le chamanisme, c'est autre chose, c'est les religions premières de l'humanité, toutes les autres religions nous disent, il y a une rupture et en tout cas un saut qualitatif considérable entre l'état d'animalité et l'état d'être humain. Et c'est ça qui a légitimé, en fait, la domination des animaux. Et on retrouve dans toute l'histoire des civilisations, effectivement, les animaux sont considérés, on peut en faire usage. Les êtres humains ont le droit d'utiliser les animaux, de les tuer, de les faire travailler, de les manger. La seule chose qu'on enseigne, c'est de ne pas être cruel envers eux. C'est déjà ça, je dirais.
Déjà ça.
Mais on peut en faire ce que bon nous semble, parce que l'être humain est au service de l'animal. Alors après, les philosophes ont emboîté ce pas. C'est-à-dire que ça, c'est les tradition religieuse, mais on retrouve la même chose dans l'histoire de la philosophie. Ça commence avec les Grecs, notamment les stoïciens, les épicuriens nous disent les animaux ne sont pas capables de réciprocité dans la justice. Donc à quoi ça sert de leur donner des droits s'ils n'ont aucun devoir, s'ils ne sont pas capables, par exemple pourquoi ne pas tuer un animal si lui va nous manger lorsqu'on est face à lui. Et donc au nom de cette non-réciprocité de la justice, de cette impossibilité d'un contrat social, les animaux sont considérés hors du droit. Et ça va être toute l'histoire de la pensée occidentale jusqu'à Kant, qui va effectivement considérer que
l'animal n'a pas de raison.
L'animal n'a pas de raison et que donc à ce titre-là, on n'a pas à le respecter comme un sujet, il est un objet. Et on a évidemment, avant Kant, on a Descartes qui est quand même, qui va encore plus loin, je dirais, puisque lui nous dit que l'animal n'a pas d'âme et puisqu'il n'a pas d'âme, il ne peut pas souffrir. Et donc, lorsqu'il crie, lorsqu'il gémit, ce n'est pas un cri de souffrance, c'est comme une horloge qui grince. C'est juste mécanique. Et donc, ça va très loin parce que là, on n'a pas été plus loin que Descartes dans la négation de la sensibilité et de l'intelligence animale. Et je crois que c'est Descartes qui a le plus influencé effectivement le comportement moderne de l'être humain vers l'animal, puisqu'aujourd'hui lorsqu'on visite les abattoirs ou tous les lieux où les animaux sont élevés dans l'élevage intensif etc., on les traite comme si c'était des choses, comme si c'était des objets qui n'avaient aucune sensibilité, et c'est contre ça aussi qu'aujourd'hui il faut lutter, et pour lutter il faut réhabiliter l'animal comme un être sensible, un être intelligent, un être affectif, un être conscient, et ce qui permettrait de le faire entrer dans la sphère de la morale.
Éric Baratet, vous, ce qui est très étonnant, puisque votre livre s'appelle « Les biographies animales », c'est édité au Seuil, vous racontez l'histoire, pas d'une espèce, mais d'un animal. Par exemple, vous commencez par cette extraordinaire girafe. On connaît les chiens, on connaît les chats, on connaît les chevaux, on connaît les moutons. On ne connaît pas bien les girafes, nous les Français. On a l'impression que toutes les girafes sont pareilles.
Oui, nous raisonnons comme cela depuis, en fait, au moins l'Antiquité, hein, c'est-à-dire nous raisonnons par espèce, voire nous raisonnons très généralement sur l'animal, l'animalité, qu'on met un peu en opposition à l'homme. Et on se rend bien compte que, et la science, et la philosophie, et la religion, jusqu'à nos jours, ont totalement refusé de penser l'individu. Et ce n'est que depuis une vingtaine d'années que quelques éthologues commencent à penser des individus, quelques philosophes, mais ils sont très rares encore. Mais par exemple, l'éthologie canine hongroise, qui est sans doute la meilleure du monde, pense maintenant uniquement le chien au niveau de l'individu. L'espèce pour elle n'a plus d'intérêt scientifique.
Vous vous rappelez, Françoise Dolto, le bébé est une personne.
Oui, ça rentre évidemment dans toute cette reconnaissance de la diversité des différences.
L'animal est une personne
et
aussi,
L'individu animal est une personne, est un acteur. On a, en fait, les ethnologues, les philosophes sont rentrés dans la question par l'idée d'animal acteur, celui qui fait faire des choses à l'homme. Mais il faut aller plus loin. Il fait faire des choses à l'homme parce qu'il est quelque chose. Il est, ou quelqu'un, hein, plutôt. À condition, évidemment, de ne pas donner à ces définitions une version humaine, ce que nous faisons toujours. Lorsqu'on parle d'intelligence, de jalousie, d'émotion, nous avons toujours tendance à donner une version humaine de ces concepts et évidemment à dire, bah, les animaux n'en ont pas. Mais si on monte ces concepts en abstraction, si on leur donne une définition plus large, ensuite on peut décliner ces concepts comme l'intelligence d'une espèce à l'autre, et là, ça devient extrêmement intéressant.
J'ai l'impression, c'est paradoxal, Éric Baratet, quand on vous lit que finalement, on ne réalise pas, c'est un peu comme entre les hommes et les femmes, on ne réalise pas à quel point on est semblable et on ne réalise pas à quel point on est différent.
Oui, ben c'est tout le problème de l'incompréhension vis-à-vis de l'autre. Hein. Nous le connaissons évidemment entre nous. Est-ce qu'on connaît bien notre conjoint, par exemple? On voit bien tout le mal que l'on a à comprendre les autres populations humaines. Les ethnologues se battent avec ce problème depuis au moins le 19e
siècle. Regardez les mythes, les Italiens sont en retard.
Bien sûr.
Les Français sont bordéliques, les Allemands sont psychorigides. Enfin bon, on en a des théories.
Et sur l'individu, sur l'animal, finalement, on s'est contenté de beaucoup de stéréotypes de ce genre-là. Hein, l'animal instinctif, etc. Et en fait, on voit maintenant que ce qui est intéressant, c'est de penser les animaux en tant qu'individus, à la fois dans l'espace, et ça vient de la découverte des inventions animales. On s'est rendu compte qu'il y avait des animaux inventeurs. Et donc, ça se passe au niveau des individus. Il y a un individu qui, à un moment, invente quelque chose, et puis après, il y a la transmission dans le groupe d'un individu à l'autre.
Vous nous donnez un exemple d'invention, Éric Baratet?
Le plus célèbre, c'est celui des macaques japonais, lorsque cette jeune femelle a compris qu'en trempant les patates douces dans l'eau salée, bah, il y avait un meilleur goût. Et donc, elle a trouvé ça, et elle l'a transmis ensuite dans son groupe. Et maintenant, il y a des groupes de macaques japonais qui trempent leur patate douce, puis il y en a d'autres qui ne le font pas. Donc on arrive à la notion de culture. Et ça passe par les individus. On a maintenant des éthologues qui sont spécialisés dans l'étude des inventeurs.
Donc il y a eu chez les macaques une Alain Passard, quoi, qui était une espèce de génial individu du goût.
Alors, on se rend compte effectivement aussi qu'il y a des différences de capacité d'un individu à l'autre dans une espèce. Alors qu'on mettait tous ces individus à égalité, on pensait finalement qu'ils ne se distinguaient absolument pas. Or, on le voit bien, par exemple, dans les biographies que j'évoque, la girafe dont vous parlez, elle ne survit à ce long voyage jusqu'à Paris que parce que c'est un tempérament tout à fait exceptionnel.
Beaucoup d'autres, à l'époque,
périssent en route. Ouais.
D'accord.
Et donc, on voit bien qu'il y a des qualités différentes et des capacités différentes d'un individu à l'autre.
Frédéric Lenoir.
Je voulais rajouter quelque chose aussi sur ce qui vient d'être dit sur les animaux reconnus comme sujet. Je crois que ce qui permet aussi d'incarner ça dans le droit, c'est de dire qu'il n'y a pas de réciprocité. Un sujet, c'est un être qui est capable de réciprocité, notamment d'une concorde, d'un contrat, etc. Et tout. Mais il y a une école philosophique américaine, que je cite également, qui a trouvé une solution technique, c'est de dire finalement il faut distinguer les agents de droit des patients de droit. Les agents de droit, effectivement, sont capables de réciprocité. Les patients de droit sont des êtres qui, par leur insuffisance rationnelle, par exemple des enfants n'ont pas une raison suffisante pour être capables de réciprocité dans le droit, mais on les protège quand même.
Ah oui.
Les handicapés sont pas forcément capables de réciprocité dans le droit, mais on les protège quand même. Eh bien, considérons les animaux comme des patients de droit. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables, par leur intelligence supérieure, d'un contrat social effectivement réciproque, mais ce sont des êtres qui ont besoin aussi d'être protégés, qu'on respecte leur bien-être, leur aspiration à vivre de manière heureuse, comme tout être sensible.
Frédéric Lenoir et Éric Baratet, nous allons tout à l'heure évoquer cette petite chimpanzée qui était chez un chercheur. Nous allons voir ce qu'il cherchait et nous allons voir aussi ce qu'il a trouvé et pas trouvé. Allez, maintenant, un petit plaisir qui date de 1965, Otis Redding.
Gotta come now. Ooh, yes, gotta come. Oh, yes, it is. There's a time I will go to my brother. Oh, I've asked my brother, will you help me, please? Still labor to try to carry on. It's been a long time coming, but I know a change is gonna come. Oh, yes, it is. Just like I said, I went to my little bitty brother.
Éric Baratet, dans vos biographies animales éditées au Seuil, vous racontez donc l'histoire de plusieurs animaux, pas espèces en général, nous l'avons dit tout à l'heure, mais personne. Il y a entre autres une petite femelle chimpanzé qui a atterri chez un chercheur. C'est compliqué leur relation. Il a atterri chez Raven. D'abord, qui était-ce, Raven ?
Alors, Henri Raven, c'était un explorateur naturaliste, à la fois voyageur, allant chercher des spécimens vivants ou morts et les ramenant dans les muséums d'histoire naturelle ou dans les centres d'expérimentation américains, dans les années 20. Et donc, il rencontre cette jeune chimpanzé qui a été capturée par des chasseurs locaux. Il l'achète, elle est très mal en point, mais il décide quand même de l'acheter. Et il la ramène chez lui, en Amérique. Il l'impose un peu à sa femme, qui n'était pas du tout au courant. Et son but, c'est de l'intégrer à la famille, puisqu'on est dans une époque où, en Occident, il y a une espèce de programme d'humanisation de certains animaux. Hein, comme on veut occidentaliser les autres populations, et bien pourquoi ne pas humaniser certaines espèces, en particulier les grands singes. Donc il y a toute une série d'expériences comme cela, et lui donc décide de l'intégrer dans sa famille.
Il a deux enfants déjà.
Il a un garçon et une fille qui ont à l'époque autour des 8-10 ans. Il fait toute une campagne de promotion sur cette intégration dans la famille avec des articles, des conférences où il amène Méchy pour la montrer aux gens. Et puis il fait un film aussi, noir et blanc, muet, où l'on voit bien ce qui se passe. Alors c'est un film de propagande, de composition, mais qui a pour but donc de célébrer l'intégration de cette petite chimpanzé dans la famille et sa quasi-humanisation, puisqu'on la voit jouer, dormir dans les lits, etc.
N'empêche que la réalité, et vous l'expliquez très bien dans votre livre, Éric Baratet, c'est super triste.
Alors la réalité est tout autre, parce qu'en fait, la journée, l'hiver, Méchier est dans la cave, dans une cage à la cave, parce que la femme d'Henri Raven ne veut pas s'occuper de cet animal.
La traversée en bateau depuis l'Afrique jusqu'aux États-Unis,
ah bah la traversée,
elle a
oui,
super
est très
froid.
Difficile. Bah oui, parce qu'il y a un changement évident de climat. Il y a la solitude dans la cave l'hiver, elle ne retrouve le maître que le soir finalement, et l'été elle est sur un portique dans le jardin, mais là aussi elle est enchaînée et elle ne
en
peut
plein
pas
soleil
faire
alors qu'elle vient de la forêt
en plein soleil alors que c'est un chimpanzé de forêt. Donc la réalité est très différente et on voit très bien que alors Henri Raven a des relations très proches avec Méchy, par contre Méchy a des relations très distantes avec les deux enfants et avec la femme. Ce qui fait que l'intégration est en grande partie ratée. Mais
c'est la reine de l'évasion. Hein, c'est
alors
bien,
c'est la reine de l'évasion. Elle, et plus elle s'évade et plus on la barricade, évidemment, on la bride. Et on se trouve bien là dans un espace à la fois d'incompréhension et d'ajustement. Et le film montre bien comment, finalement, cet animal vit des choses communes. On voit bien qu'il y a des choses qu'elle sait faire, et puis d'autres choses, lorsqu'on veut montrer dans le film qu'elle joue à la balle, et on voit bien qu'elle ne sait pas faire.
Alors, ce qu'il y a d'affreux, Éric Baratet, c'est que finalement, ce Henri Ravenne, qui est un scientifique, qui a décidé d'étudier les chimpanzés, qui a décidé de la ramener chez lui, il ne la comprend pas. C'est pour ça que c'est triste. C'est que finalement, la chimpanzée souffre, son épouse souffre parce qu'elle est un peu dépassée par les événements. Et étudier est une chose, comprendre en est une autre. Frédéric Lenoir citait Michelet au début de son livre en disant « On découvre une âme, il n'a pas découvert une âme,
Non, parce Ravenne. Que c'est un scientifique de l'époque, c'est-à-dire ce n'est pas un éthologue travaillant sur les comportements. À la base, c'est un anatomiste. Il s'intéresse aux animaux morts qu'il découpe, qu'il rempaille, mais il n'étudie pas en tant qu'éthologue. Et donc, il la comprend, oui et non, cette chimpanzée. Il y a des choses qu'il comprend, mais il ne va pas au bout de la relation. Et évidemment, ça entraîne une incompréhension assez forte.
Finalement, j'ai l'impression que ces animaux ont été un peu sacrifiés. Alors là, cette petite chimpanzée méchie dont vous parlez, mais bien d'autres ont été, et même encore maintenant, nos souris, nos lapins de laboratoire, sont sacrifiés sur l'autel de la science quand même.
Ah bien sûr, par dizaines de milliers. Alors, il y a un mouvement maintenant de reconnaissance de la nécessité de faire attention à ces animaux, parce qu'on a compris maintenant que ça pouvait impacter très fortement les résultats. Ne pas faire attention à la déprime de l'animal, c'est obligatoirement faire dévier l'expérience et les résultats. Donc maintenant, il y a une entreprise de prise en compte.
C'est intéressant ce que vous dites.
C'est tout à fait récent quand même.
C'est pas par bonté, c'est par désir d'efficacité. Les résultats
oui,
sont
et
faux.
Puis ça reste encore, j'ai fait partie d'un comité d'éthique pendant quelques années, et j'étais assez étonné, et le jury avec moi, de voir de jeunes doctorants arrivant, nous présentant leur recherche, sans même se poser la question de la souffrance animale.
Pourtant, Frédéric Lenoir, dans Lettre ouverte aux animaux édité chez Fayard, vous nous dites que Pythagore, ça date pas d'hier, condamnait les sacrifices animaux. Alors c'était des sacrifices religieux, mais sacrifices quand même.
Absolument, Pythagore est un des rares philosophes d'ailleurs de l'Antiquité occidentale qui avait tout à fait conscience de la sensibilité des animaux, de leur qualité d'être sensible. Il croyait en la transmigration des âmes. Il avait hérité cette croyance de l'Inde et donc il pensait qu'effectivement on pouvait aussi se réincarner en animal. Et il y a une anecdote que je rapporte qui est assez amusante où il voit un homme maltraiter son chien et lui dit « Arrête, arrête, j'ai reconnu dans le cri de ce chien la voix d'un de mes amis qui est décédé récemment et je sais que c'est lui qui l'a dans ce chien. » Bon, c'est peut-être une manière pédagogique de faire comprendre à son interlocuteur qu'il ne faut pas frapper un être sensible. Mais on voit que Pythagore, effectivement, est un des premiers, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu effectivement Ovide aussi, qui a des poèmes magnifiques dans lesquels il s'insurge contre la cruauté envers les animaux. Et c'est un des premiers penseurs à nous dire que si un être humain est cruel envers un animal, il sera forcément cruel envers d'autres êtres humains. Et puis, vous avez aussi Plutarque, qui est aussi un penseur de l'Antiquité, qui a beaucoup défendu les animaux, notamment contre les penseurs stoïciens ou épicuriens, en disant qu'il y avait vraiment une grande continuité entre l'être humain et l'animal. Ce sont des contre-exemples. Ce sont quelques penseurs isolés, mais aujourd'hui, les études les plus récentes, effectivement, qui datent de quoi, 30-40 ans, l'éthologie, leur donnent raison. Et par exemple, un animal comme la pieuvre, on pensait qu'elle n'avait même pas de cerveau, elle a plein de cerveau dans ses tentacules, et ils sont capables de faire des choses assez étonnantes. Je vais prendre un seul exemple sur des animaux de ferme. Prenons le cochon. Il y a eu des études éthologiques
depuis... Chez qui tout est bon ?
Et chez qui tout est bon. Voilà, on mange tout du cochon. Et on l'élève comme des choses. C'est-à-dire, l'expression utilisée en France pour les cochons, c'est du minerai. C'est-à-dire qu'on, ce n'est pas un être sensible, c'est du minerai. Et donc, les cochons, il y a eu des études éthologiques qui ont été faites sur eux, notamment, je cite des exemples dans des universités américaines. On a montré qu'ils avaient une intelligence, une sociabilité, une affectivité très développée. On a installé un appareil sur le groin des cochons qui leur permet d'utiliser des ordinateurs. Et ben, ils sont capables de faire des jeux de vidéo sophistiqués et de battre des fois des chiens, des chimpanzés dans ces jeux-là. Si on avait conscience de ça, de leur sensibilité, de leur affectivité, de leur sociabilité, de leur intelligence, de la conscience qu'ils ont d'eux-mêmes, mais on ne pourrait plus les traiter comme ça.
Oui, c'est ce que dit Vincent Desprez. Finalement, on s'est intéressé aux chimpanzés qui sont intéressants, mais ils nous ressemblent. Et moins aux moutons, par exemple, ou aux cochons.
Voilà, parce qu'ils nous ressemblent moins. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'autres formes, effectivement, d'intelligence, de sensibilité. Et c'est ça qui est passionnant dans la révolution scientifique sur l'étude des animaux, c'est qu'on s'aperçoit de l'extrême richesse de leur type d'intelligence, qui ne sont pas les mêmes. Je vais même aller plus loin. Alors là, je reprends un exemple chez le singe. On avait dit quand même, il reste une différence fondamentale entre l'homme et le singe, c'est que le singe est incapable d'avoir un récit de sa propre vie.
Ah, le langage, donc les grands singes.
Oui. Voilà le langage par rapport à une compréhension de sa vie dans la durée. C'est-à-dire d'avoir une mémoire de toute son existence, une capacité de se projeter dans le futur. Ça, c'était un des propres de l'homme. Et puis, on s'est aperçu avec les travaux de Patterson, notamment, qui a appris le langage des signes aux grands singes. Et il y a des singes qui ont raconté leur histoire. À un moment donné, elle voit un singe qui était orphelin, qu'elle avait pris en Afrique et qui avait l'air triste. Il dit « Pourquoi tu es triste ?» Et il dit en langage des signes « Chasseur, maman de morte, moi triste. » Donc là, il avait parfaitement la mémoire de son histoire. Qu'est-ce qui différencie encore ce type de, effectivement, de conscience de soi, de la conscience humaine ? Pas grand-chose.
Clara veut m'entendre, inventer des mots tendres. Je devrais à chaque instant la surprendre. Et mademoiselle parle de se pendre s'il faut attendre. Clara veut l'été, de mars à février.
Grave la lune, c'était Alain Chamfort.
État d'esprit sur France Inter.
Le 29 mars 1516, la République de Venise prend une décision lourde de conséquences. Tous les Juifs vivant en son sein, qu'ils y soient établis de longue date ou qu'ils viennent d'arriver, doivent être enfermés dans un lieu dénommé alors Ghetto. Depuis le Moyen-Âge, des pogroms ont lieu dans toute l'Europe. Les Juifs sont rendus responsables de tous les maux, surtout de la peste et autres catastrophes. On les torture pour les contraindre à avouer leur culpabilité, puis on les exécute. L'humiliation suprême est de les pendre avec un chien.
Voilà un extrait de Venise et son ghetto. C'est un documentaire qui a été diffusé sur Arte le samedi 27 mai dernier. Un documentaire de Klaus Steindl. Je ne sais pas si je prononce bien. Mais cette histoire de pendre les chiens, Éric Baratet, vous êtes historien. Vous en parlez dans votre livre Biographie animale édité au Seuil de chiens pendus.
Oui, pendre son chien en fin de vie ou pour s'en débarrasser était quelque chose de tout à fait courant, ou alors le jeter dans un cours d'eau avec un caillou sur le cou. Et on voit bien là dans l'histoire là que vous présentez, le but est de rabaisser l'autre humain au niveau des animaux, hein, puisque on fait avec le juif ce qu'on fait avec le chien. Ce qui montre bien au passage d'ailleurs que toute la pensée qui a longtemps consisté à vouloir protéger les hommes en faisant une très grande différence entre les hommes et les animaux, n'a jamais marché. Parce que, justement, il y a toujours quelqu'un qui va dire à son voisin « Tu n'es pas un homme, tu es un animal. » Et que le meilleur moyen, à mon avis, de respecter les autres humains, c'est déjà de respecter les animaux. Parce qu'à ce moment-là, on ne pendra plus un juif comme un chien. Mmh. Mais ça en dit long, effectivement, sur les conditions animales qui ont été en vigueur jusqu'au milieu du XXe siècle.
Alors, vous parlez de chiens, bien entendu. On ne peut pas faire un livre sur les animaux sans évoquer les chiens. Éric Baratet, vous parlez du chien. Je disais que vous aimez bien les chiens d'écrivains, parce que les écrivains écrivent. Le chien d'Alexandre Dumas, qui vient d'Écosse.
Oui, alors c'est Pritchard. Alexandre Dumas raconte comme ça la vie de plusieurs animaux. Il était très friand d'animaux qu'il avait autour de lui, et en particulier ce Pritchard. Alors l'histoire telle que la raconte Dumas est très théâtralisée, très mise en scène, mais derrière la mise en scène, il y a des réalités qu'on peut reconstituer, notamment en croisant son récit avec les traités d'élevage des chiens de l'époque ou les traités de chasse. Et ce chien est très intéressant puisque c'est un chien qui est offert à Alexandre Dumas, qu'il récupère comme chien de chasse.
On l'offre parce qu'il n'est pas très facile à vivre, on s'en débarrasse.
Il semble pas très facile à vivre, effectivement. Et alors le problème, c'est que c'est un chien écossais, donc qui a été entraîné à la chasse à la britannique et non pas à la chasse à la française. Ce qui fait que quand Dumas fait dresser ce chien par un garde forestier, eh bien, il y a énormément d'incompréhension. Le chien ne comprend pas ce que veulent les Français. En plus, il ne comprend pas le français. Alors ça, le problème de la langue, est très drôle de voir que les chasseurs ne vont s'en apercevoir qu'à la fin du 19e siècle. On a des textes qui disent que, ah bah tiens, il y a peut-être un problème de langue, ce qui entraîne toute une série d'incompréhensions et qui fait qu'on croit que ce chien est incapable et totalement
de mauvaise volonté. Parce qu'il se donne du mal. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé à Édimbourg, l'un ou l'autre. Il y a un château qui est fait pour la guerre. C'est viril, c'est brutal, c'est violent. C'est un château de défense. Et on voit à un moment donné, dans l'enceinte de ce château, des petites tombes. C'est très étonnant. Mais qu'est-ce que c'est que ces petites tombes? Ce sont des tombes d'enfants. On s'approche, il y a des noms, il y a des pierres, il y a des dates graffées, des dates de mort. Ce sont les tombes des chiens des officiers. Donc ils avaient des chiens d'abord, et ils avaient le droit de les avoir, et s'ils les ont enterrés avec tombe, avec nom, avec date, c'est qu'ils devaient être importants quand même, ces chiens.
Oui, c'est une manière aristocratique qu'on voit apparaître au XVIIIe siècle, l'enterrement des chiens. Il y a quelques-uns dès le XVIe, mais c'est surtout le XVIIIe, XIXe siècle. Alors ça naît dans l'aristocratie, ce sont évidemment des chiens exceptionnels, hein. Et c'est par l'aristocratie qu'est créé le lien à l'animal de compagnie tel qu'on le connaît maintenant.
Alors donc, finalement, on s'aperçoit, parce que vous dites que l'aristocratie commence à respecter ses chiens au point de les enterrer, il y a quand même dans l'évolution de l'humanité des modes. C'est pas une mode, votre association, Frédéric Lenoir, mais c'est une évolution, c'est une étape. Vous avez créé il y a quelque temps une association dont vous êtes le président, Ensemble pour les animaux. Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir avec cette association?
Déjà une première chose à fédérer, c'est-à-dire qu'il existe de plus de 800 associations en France qui s'occupent des animaux. Elles travaillent très rarement ensemble. Alors il y a eu très récemment une très bonne initiative qui s'appelle Animal Politique, où il y a 26 grandes associations qui se sont fédérées pour créer un manifeste pour interpeller les candidats à l'élection présidentielle et législative autour d'un certain nombre de propositions. Et moi je crois qu'il faut continuer ça dans la durée, c'est rassembler toutes les associations qui le souhaitent pour certaines causes. Et donc l'idée c'est qu'Ensemble pour les animaux, chaque année on propose une grande cause nationale. On va travailler autour de la vivisection, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. On va travailler autour de la demande d'une structure gouvernementale ou d'un secrétariat d'État à la condition animale. On va travailler autour de la recherche d'un label éthique du bien-être animal. Donc il y a beaucoup de causes qu'on voudrait mener avec d'autres associations et les fédérer. Puis la deuxième chose, c'est continuer de produire, publier tout ce qu'il y a comme réflexion passionnante aujourd'hui autour de la relation entre l'être humain et l'animal, et que cette association fédératrice puisse faire connaître davantage cette évolution des mentalités. Je crois qu'aujourd'hui, il faut sortir de tous les clichés, tous les stéréotypes, aussi toutes les projections qu'on peut faire sur les animaux, pour mieux les connaître et, les connaissant mieux, avoir une meilleure relation avec eux. Et ce qui m'apparaît vraiment important, c'est de montrer qu'il n'y a pas d'opposition entre l'être humain et l'animal. J'ai pris en exergue du livre cette phrase de Lamartine que j'aime beaucoup, on n'a pas deux cœurs, un pour les êtres humains et un pour les animaux, on a du cœur ou on n'en a pas. J'explique dans ce livre que les associations de défense des animaux au 19e siècle, tous ceux qui ont commencé à s'intéresser aux animaux, à dire arrêtons d'être cruels envers eux, ce sont souvent les mêmes qui ont lutté contre toutes les ségrégations sociales. Ce sont les mêmes qui ont lutté contre l'abolition de l'esclavage. Ce sont les mêmes qui ont lutté pour l'émancipation des femmes.
Les mêmes qui luttent.
Exactement. Et donc, il n'y a pas d'opposition. Vous avez des féministes comme Louise Michel et tout, qui défendaient à la fois les femmes, les ouvriers, et en même temps qui défendaient les animaux.
Le cœur ne s'use pas si l'on s'en sert, hein, il gonfle au contraire, je pense. Plus l'homme est féroce envers la bête, plus il est rampant devant les hommes qu'il domine. Vous citez dans votre livre, Frédéric Lenoir, Louise Michel, justement. Donc, si on est aimable avec les animaux, c'est pas pour ça qu'on sera désagréable avec les humains. Au contraire. Mais non, vous n'êtes pas une petite mammaire aux cheveux bleus avec
mais
un petit chien.
C'est intéressant
en
ce que vous dites, parce que il y a quelques années, hein, vous savez, cet événement symbolique assez important, le changement du code civil. Il y avait une pétition que 30 millions de l'association 30 millions d'amis avait fait, qui avait recueilli 1 million de signatures, ce qui est énorme, demandant le changement du code civil pour qu'on reconnaisse les animaux comme des êtres sensibles et pas simplement comme des meubles, ce qui était le cas depuis Napoléon. Effectivement, cette pétition n'avait pas abouti, c'est-à-dire que les hommes politiques rigolaient en disant ce sont des mamies à chats qui ont voté pour ça, ça n'a pas d'importance. Du coup, je me suis emparé de cette pétition, j'ai envoyé le texte à une vingtaine d'amis philosophes, donc Michel Onfray, André Comte-Sponville, Boris Cyrulnik, etc. Et des savants et des philosophes. On a publié cette pétition dans la presse. Quelques jours après, les députés se sont emparés de la chose et la loi a changé.
Alors, nous avons parlé des chiens, nous avons parlé des chimpanzés, nous avons évoqué la girafe, j'allais dire votre girafe, Éric Baratet. Vous parlez également dans ce livre édité au Seuil Biographie animal d'un cheval extraordinaire, Warrior.
Alors c'est un cheval de guerre. Il a vécu toute la guerre de 1914. Il appartenait à un général britannique. Il est devenu un véritable héros pendant la guerre et après la guerre. Non pas parce qu'il a été un combattant absolu, hein, au contraire, c'était plutôt un cheval de seconde ligne, hein, un cheval, on pourrait même dire, embusqué, mais qui a vécu très mal la guerre, on le sent très bien. Son maître croit que c'est un véritable courageux, téméraire, parce que lorsque ça bombarde dans tous les sens, il ne bouge pas. Maintenant, on peut plutôt se demander, avec l'éthologie équine actuelle, si au contraire, ça n'était pas un cheval totalement traumatisé, paralysé, qui ne pouvait plus rien faire. Ce qui est important du côté humain, c'est pas cette réalité-là que les gens ont eu du mal à comprendre, c'est qu'il est devenu une véritable mascotte de la brigade de cavalerie canadienne. Parce que justement, il a traversé la guerre, il ne mourait pas, alors qu'au même moment, il y avait quantité de chevaux et quantité d'hommes, évidemment, qui mouraient. Et il est devenu presque un porte-bonheur. Mmh. Et il reçoit, même en 2014, il reçoit une médaille spécialement attribuée aux animaux combattants, alors qu'il est mort, évidemment, depuis très longtemps. Mais on voit bien que là, il y a un divorce entre la réalité de ce qu'il a vécu, une guerre qui n'est pas facile, qui n'a été facile, évidemment, pour personne, et puis ce dont à quoi il a servi vis-à-vis des hommes, et finalement il a été une espèce de thérapeute, hein, et d'aide morale pour ces soldats.
Vous évoquez également, Frédéric Lenoir, les animaux thérapeutes dans votre livre, c'est qui est une lettre ouverte aux animaux, et c'est édité chez Fayard. Les animaux qui soignent, vous parlez de vos chats, mais vous parlez également.
Alors je parle effectivement de choses très générales, mais aussi de cas concrets, puisque comme j'ai des animaux depuis longtemps, j'ai pu observer leur comportement, et je raconte par exemple que lorsqu'il m'est arrivé d'avoir des douleurs intestinales, des problèmes, j'avais toujours un chat qui venait se mettre sur moi à cet endroit-là.
C'est drôle, hein.
Quand j'ai mal quelque part, j'ai un chat qui vient, et puis puis des chats qui consolent. J'ai raconté l'histoire d'une amie qui est rentrée chez elle un jour et puis son mari était parti, il avait même pris tous les meubles, il avait juste laissé le chat. Et elle a pleuré toutes les larmes de son corps et le chat a passé une heure à lui lécher ses larmes. Donc il y a vraiment une grande compassion chez les animaux qui ressentent ce que nous ressentons. Et puis les animaux anticipent très souvent les choses, ils savent ce qui se passe pour nous. Ils ont des qualités télépathiques assez extraordinaires.
Les éléphants du tsunami.
Alors voilà, pas que les éléphants, la plupart des animaux ont quitté les lieux avant le tsunami, ils ont pressenti ce qui allait se passer. Et puis, tout bêtement aussi, moi, dès que j'allais, il y a quelques années, dans une maison de campagne, je laissais mon chat parce qu'il voulait rester là-bas, c'est les voisins qui le nourrissaient. Et puis, les voisins me disaient, on sait toujours quand tu vas arriver à la minute précise, parce que 10 minutes avant que tu arrives, même sans avoir prévenu personne, et j'arrive jamais au même jour, au même moment, le chat était là sur le portail à me guetter. Donc les animaux ont des qualités d'intuition, de télépathie, des formes de cognition que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas, et qui sont souvent beaucoup plus développées que chez nous. Donc nous avons peut-être une raison très structurée, très capable d'abstraction, etc. Mais ils ont d'autres formes d'intelligence assez extraordinaires et qui sont encore assez mystérieuses. Et puis vous avez raison, et j'ai eu à cœur de faire tout un chapitre qui clôt ce livre sur comment les animaux nous soignent. Et il y a aujourd'hui de plus en plus d'associations qui se créent, des centaines en France, qui proposent des soins à travers les chevaux, par exemple. On vient de parler de Warrior, mais les chevaux ont depuis très longtemps un lien fort avec les êtres humains. Et on utilise aujourd'hui beaucoup les chevaux pour aider des enfants qui ont des problèmes d'autisme ou qui ont des problèmes de sociabilité, d'affectivité. Les chevaux sont extrêmement positifs dans la relation aux enfants. On utilise également, évidemment, les chiens, c'est très connu. On utilise aussi des animaux beaucoup plus étonnants, par exemple la chouette. J'ai découvert qu'il y avait des associations qui amenaient des chouettes dans les maisons de retraite avec des personnes un peu déprimées. Ben, la chouette est un animal déjà insolite, qu'on connaît peu, extrêmement sociable, qui aime les humains. Et du coup, ben, là, la chouette passe de main en main. On peut l'envoyer d'une personne à l'autre. Ça crée un événement de sociabilité dans la maison de retraite. Et donc, on voit des choses qu'on peut voir sur Internet très étonnantes. Comment la chouette fait du bien aux humains.
Pourtant, dans Bambi, elle est grognon.
Oui, mais on en a encore une image caricaturale. Et donc, il y a toutes sortes d'animaux, en fait, qui peuvent effectivement... Il y a une maison de retraite à Paris, je cite, il y a plus de 200 chats en liberté. Et ça fait un bien fou aux personnes âgées qui laissent leurs portes ouvertes s'ils ont envie que les chats viennent, etc. Donc, redécouvrons la relation très positive et constructive qu'on peut avoir avec les animaux, plutôt que simplement, évidemment, de les exploiter.
Puisque nous parlons des animaux qui soignent, j'aimerais vous signaler ce livre de la Britannique Linda Kohanoff, édité au courrier du livre « Chevaucher entre deux mondes ». Et elle parle justement d'un cheval qui s'appelle Noche. Les gens ne peuvent pas bien l'approcher, sauf quand on pleure. Il pleure dans le cou de ce cheval. Et là, ce cheval se laisse approcher. Et elle dit que ça fait du bien au cheval. Ça le console lui aussi. C'est assez étonnant. « Chevaucher entre deux mondes » au courrier du livre. Il y a également... À propos de chevaux, la méthode Lassance, éditée chez Delachaux et Niesley. Alors ça, c'est pour apprendre à connaître les chevaux, à éventuellement les monter, à rentrer en relation avec lui. On apprend des savoirs éthologiques assez nouveaux et puis des méthodes d'éducation du cheval qui sont pas du tout la façon dont moi j'ai appris à monter à cheval, je peux vous dire. C'est beaucoup plus doux, profond et intéressant. Lassance, chez Delachaux et Niesley. Chez Delachaux et Niesley, ces animaux qui font l'histoire, 50 aventures d'animaux célèbres de Jean-Philippe Noël. Florence Burga, je ne sais pas si vous la connaissez, chez Rivage Poche, oui, Frédéric Lenoir.
Oui, c'est une philosophe de la condition animale que j'apprécie beaucoup et qui a fait des travaux très importants sur justement, notamment la relation entre l'être humain et l'animal.
Elle a écrit là le mythe de la vache sacrée, chez Rivage Poche. Donc c'est un livre de poche comme son nom l'indique. Et puis je ne vais pas vous saouler jusqu'à demain, je vais juste vous citer le dernier, encore un Britannique. Les Britanniques et les animaux, on sait que ça marche pas mal à la librairie Vibert, donc de Brian Fagan. La grande histoire de ce que nous devons aux animaux. Tous ces livres, vous les retrouverez sur le site d'État d'Esprit et puis surtout les vôtres. Éric Baratet, Biographie animale, édité au Seuil, et Frédéric Lenoir, Lettre ouverte aux animaux chez Fayard. Les associations sont sur le site. Un grand merci à tous les deux d'être venus jusqu'à la maison de Radio France où nous avons beaucoup d'animaux, principalement des souris. Merci à Claire Destacan, merci à Hélène Biziot pour la réalisation, à Emmanuel Fournier pour la préparation, à Alice Berger pour la prise de son et à Muriel Pérez pour la programmation musicale. Surtout, venez sur le site d'État d'Esprit parce que vraiment, aujourd'hui, vous y trouverez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses intéressantes et tous les livres dont nous avons parlé. Après les informations, vous retrouverez Brigitte Patient pour regarder voir. Elle évoquera les 70 ans de l'agence Magnum.